Bonjour, aujourd'hui à mon micro, je reçois Catherine Mantior qui est artiste peintre. Juste après avoir coupé le micro, Catherine me confie que ce sont les émotions de l'enfance qui lui inspirent ses toiles. Les sensations que nous avons tous et toutes connues, comme marcher pieds nus dans l'herbe, sentir la pluie l'été ou respirer le parfum du plat mijoté dans la cuisine familiale. Forcément, ces toiles parlent à tout le monde, touchent là où c'est doux, là où c'est libre, là où c'est joyeux. J'espère que vous passerez donc un moment doux, libre et joyeux à écouter les aventures de Catherine. Mais d'abord, merci Catherine de venir jusqu'à mon joli micro.
Avec grand plaisir.
Je t'ai proposé de me raconter un peu ton histoire. On se connaît comme beaucoup de mes invités grâce à l'association des mompreneurs.
Oui, c'est ça.
Et je crois que ça fait 2 ans, quelque chose comme ça, qu'on s'est croisés la première fois. Et pour commencer, ma première question pour te situer, c'est comment tu définis ton activité? C'est quoi sur ta carte de visite? Tu mets quoi?
Aujourd'hui, je suis artiste peintre.
D'accord.
Alors, c'est une grande étape pour moi d'avoir écrit ça sur une carte de visite et de distribuer la carte de visite avec artiste peintre dessus. Ça n'a pas toujours été le cas.
Ouais.
J'ai fait d'autres choses avant. Mais pour représenter des sociétés, et maintenant, c'est moi que je représente, donc ça change tout à fait la perspective.
Okay.
Et aussi l'énergie dans laquelle je peux le faire.
Super. Et si on remonte dans le temps, il y a quelques années, pas grand-chose, quand tu étais petite. Mmh. Est-ce que c'était une envie qui était déjà présente? Quel genre d'enfant t'étais?
Alors, j'étais un enfant, et j'avais ce côté créatif, donc j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup peindre,
ouais.
Mais comme hobby.
D'accord.
Et à côté de ça, j'étais une bonne élève, donc à l'école, j'étudiais mes devoirs et mes leçons, et j'ai fait ce que mes parents attendaient de moi, c'est-à-dire des études supérieures, et puis j'ai commencé à travailler dans le droit,
ouais.
Ce qui n'a rien du tout à voir avec l'art.
D'accord.
Mais il y a toujours eu ce petit aspect créatif, et après, j'ai travaillé dans la communication, et j'ai toujours trouvé un moyen de pouvoir communiquer avec les images, avec les couleurs, avec les gens, par le biais de la création, en fait. Donc, même quand on fait quelque chose de tout à fait différent, quand on a cette petite graine de création en soi, on s'arrange toujours pour la faire germer et pour la faire fleurir d'une façon ou d'une autre.
Ok. Mais donc, tu n'affirmais pas, tu sais, quand les adultes disent « qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grande ?» Tu ne disais pas que tu allais être artiste peintre, petite.
Non, parce que ce n'était pas dans les plans.
Ce n'était pas possible,
et
c'était pas envisageable.
Ça a juste été soulevé par le PMS quand ils ont fait une étude en réto pour savoir où j'allais m'orienter. Et ils ont recommandé de m'orienter vers les beaux-arts, ce à quoi ma maman a répondu, on fera le droit d'abord, on verra après.
Ouais.
Donc voilà, comme je crois beaucoup de gens qui ont une fibre créatrice, c'est pas toujours le choix raisonnable, et en fonction des étapes de la vie, c'est pas non plus raisonnable nécessairement quand on veut en vivre et quand on veut avoir un job stable.
Puis je me dis, si dans l'entourage de ta famille, il n'y a pas des personnes qui ont fait ce choix-là, c'est pas évident de l'envisager, comme tu dis, comme quelque chose qui te permette, à côté de ça, de payer ses factures,
voilà,
et d'être sur ses deux pieds, quoi. Ça semble pas, au-delà même du raisonnable, mais envisageable.
C'est ça.
Passive.
Et donc, bon, y a eu différentes étapes dans ma vie où il fallait que je travaille à plein temps pour nourrir mes deux enfants et pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Et puis là, aujourd'hui, j'ai 52 ans, je suis grand-mère et j'ai des enfants qui sont adultes et indépendants. Et la perspective a changé.
Oui.
Et aujourd'hui, je peux me permettre de me lancer une activité d'artiste peintre, d'y investir mon énergie dans le bon sens, de mettre sur pied ce qu'il faut pour essayer de faire démarrer cette activité et qu'un jour, elle soit rentable.
Et donc, ton parcours, est-ce que quand tu es étudiante en secondaire et après à l'école supérieure, est-ce que tu continues à peindre ou à chercher des espaces où tu peux vraiment créer dans le sens, pas être créative, mais créer, réaliser des choses, ou est-ce que tu mets ça de côté?
Ben, je peins encore de temps en temps pendant les vacances, des
Ouais.
petites aquarelles de paysages. J'ai jamais arrêté.
D'accord.
Mes enfants étaient bien au courant. Mais au niveau professionnel, c'était une création qui s'exprimait autrement. C'est-à-dire, c'était plus par des images, par des photos, par des visuels, réaliser des brochures, mettre en valeur tout ce que je faisais au niveau professionnel pour la société, mais de façon très visuelle, très colorée, même dans des brochures et dans des sites internet, puisque là, la communication, ça passe aussi par l'image, parfois beaucoup mieux que par les mots. Et donc voilà, c'était la façon que j'avais trouvée de pouvoir exprimer ce côté créatif, malgré le fait que j'avais un job sérieux, comme on dit.
Et donc tu fais des études de droit, c'est
Oui.
ça? Et tu commences à travailler dans la communication?
J'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans le droit et les ressources humaines pendant une dizaine d'années. Puis
D'accord.
après, j'ai bifurqué vers la communication et là, j'ai travaillé pour des multinationales pendant 25 ans.
Ouais.
En faisant à la fois tout le côté créatif, un peu marketing de l'image de marque des sociétés, pour les mettre en valeur, etc. Et aussi la gestion de crise, ce qui était beaucoup moins rigolo et beaucoup moins amusant aussi. Et bon, donc il y a 3 ans, j'ai fait un revirement à 360 degrés suite à un burn-out. Et la question qui a vraiment fait le déclic, c'était qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie plutôt que de vous en coûter?
D'accord.
Et en réfléchissant bien, il y avait énormément de choses sur mon parcours professionnel qui me demandaient un effort, de la persévérance, de la préparation, de la concentration. Puis j'arrivais à faire ce qu'on attendait de moi. Je l'avais fait, j'étais contente, j'avais relevé le challenge, mais par contre j'étais vidée.
Le coût était trop
Et je
important.
me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui allaient contre ma nature intérieure
Oui.
et où je faisais vraiment un effort énorme pour justement. Moi qui étais plutôt introvertie, devenir extravertie, parler devant des caméras, etc., ce qui en soi n'était pas nécessairement ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de m'exprimer, mais pas de cette façon-là. Et qu'est-ce qui me donnait de l'énergie? Ben, en fait, je me suis rendu compte que peindre, c'est quelque chose qui me met dans ma bulle, qui me permet de faire une sorte de méditation, en fait. Je suis hors du temps, je suis hors des lieux. Et j'exprime mes émotions sur la toile de façon très positive et très relaxante, en fait. Ça me fait beaucoup de bien de peindre. Je ne suis jamais fatiguée de peindre. Ça peut me prendre à n'importe quel moment de la journée. Et après, je me sens ressourcée.
Ok.
C'est comme une balade en forêt pour certaines
Ouais, ça
personnes.
te recharge,
C'est quelque
quoi.
chose qui recharge vraiment mes batteries. Et alors, j'ai découvert après, dans un deuxième temps, quand j'ai eu quelques toiles, que échanger et en parler avec d'autres gens, ça nourrissait mon esprit, la façon de voir les choses. Je peins pour moi au départ, mais échanger avec les gens, c'est aussi quelque chose qui est assez proche de ce que j'aime faire. Et donc, aller trouver des endroits pour exposer chez des commerçants qui avaient un petit peu souffert du Covid et qui avaient besoin de renouveler leur approche, de changer leur décor, de surprendre parfois leurs clients. C'était quelque chose de créatif aussi, c'était du win-win, c'était sympa et c'était l'occasion pour moi de sortir de chez moi, de montrer un peu ce que je faisais et donc ça m'a bien plu.
Et est-ce que tu as eu à un moment le besoin de te former? Je te pose la question parce que souvent, dans les personnes que j'accompagne, pour aller vers une nouvelle activité, il faut comme s'il fallait absolument un diplôme ou un papier qui dit pour pouvoir mettre un nouveau titre sur une carte de visite, je suis ceci, je suis cela. Là, est-ce que tu as eu à un moment besoin d'une autorisation pour être artiste peintre?
C'est assez étonnant parce que mon métier m'avait préparé à pouvoir fabriquer les outils.
Ok.
C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un problème de fabriquer des cartes de visite, de faire des brochures, de faire un site internet, de créer une page sur Facebook, une page sur Instagram. Simplement, c'était la première fois que je me suis dit, tiens, ma page Facebook qui est privée, je veux la transformer en page pro
Oui.
en mettant en valeur mes peintures. Ce que je ne faisais pas jusque-là. Et le site internet, c'était créer un site qui parle de ma peinture. La carte de visite, c'était acquérir une certaine légitimité quand même, de pouvoir écrire artiste peintre dessus et de pouvoir référer à mon site, à mes pages. C'était l'occasion de pouvoir sortir dans le monde et de communiquer un peu ce que je faisais.
Oui.
Et je veux dire que j'ai pas eu de formation pour ça, mais c'est parce que je l'ai acquis dans ma profession antérieure.
Mais sur la peinture en soi, est-ce que...
Sur la peinture, pas.
Tu t'es... Par exemple, t'as toujours été dans des magasins de fournitures et t'as acheté des toiles et t'as acheté des pinceaux et t'as acheté... Je sais que tu utilises quoi comme...
Alors, c'est assez amusant parce que chez moi, c'est carrément thérapeutique cette peinture. Donc, j'ai voulu vraiment retrouver les sensations premières des mains dans la peinture qu'on a quand on est enfant.
Tu n'as pas de pinceau ? Tu peins avec
donc, je ne veux pas de pinceau.
D'accord.
Donc, je peins de façon intuitive et vraiment comme je le ressens, c'est-à-dire avec la peinture liquide parce que j'ai envie de jouer avec la matière. Et donc, c'est une peinture qui ne reflète pas la réalité. L'idée n'était pas du tout de représenter quelque chose avec une certaine précision, comme on peut le faire avec de la peinture avec des pinceaux, mais plutôt de mélanger les couleurs, de les faire vivre, de les faire bouger, de les faire danser, de les faire chanter, et vraiment de m'exprimer, mais en toute liberté, et vraiment casser le cadre. Donc, vraiment, je n'ai pas de sujet de base que je copie. C'est plus au fur et à mesure de la peinture que je m'oriente vers l'un ou l'autre sujet ou dans de l'abstrait. Et chose étonnante, c'est que ces peintures reflètent des émotions. Et au départ, je me suis dit, mais c'est mes émotions à moi. Mais le fait de les montrer, les gens les ressentent aussi. Et donc, j'ai pas mal de centres médicaux qui aiment bien exposer mes peintures, non seulement parce que les couleurs sont gaies et vivantes, mais aussi parce que ça suscite des émotions positives et que pour des patients qui attendent un rendez-vous médical, c'est quelque chose de positif et quelque chose qui est sympa.
Ok, ok. Donc, tu te lances seule, sans être dans un collectif, sans un atelier, tu travailles
seule
de chez toi.
J'ai essayé une fois un atelier, mais c'est pas mon truc.
Ouais.
C'est vraiment ma bulle. J'ai pas envie d'interférence, j'ai pas envie de la partager nécessairement au moment où je crée. Je veux bien la partager une fois que c'est fait.
Ok. C'est quoi la première fois que tu vends ?
C'est surprenant. C'était lors d'un parcours d'artiste et c'est une dame qui me dit : votre peinture me fait du bien, elle me parle. Et j'ai envie de l'emmener chez moi. Donc c'est un peu comme si c'était un message qui a été reçu et qui a été...
C'est un doudou, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, vendre de la peinture, c'est pas du tout faire du marketing du pot de yaourt.
Ouais.
J'ai certains amis qui sont dans le marketing et qui me disent, c'est quoi ton public cible ? C'est quoi ton business plan et tout ? Je dis, écoute, l'art, c'est subjectif.
Ouais.
Moi, tout ce que je peux faire, c'est que mes toiles, je peux les mettre en dehors de chez moi pour que les gens les voient. Maintenant, susciter le coup de cœur, que ça parle ou que ça ne parle pas à quelqu'un, je ne peux pas interagir là-dessus. Je peux expliquer, mais ce n'est pas ce qui fera que ça fabrique un coup de cœur. Et un coup de cœur, parfois, ce n'est pas explicable. Donc, il y a des choses qui vont plaire à certaines personnes, d'autres pas. Et là-dessus, je ne peux pas agir. Simplement, j'aime quand ça plaît. Parce que j'ai l'impression d'être comprise, quelque part.
Okay.
Et je suis contente aussi quand quelqu'un qui achète une peinture me dit « j'ai vraiment eu un coup de cœur, elle me plaît vraiment bien » ou que j'ai eu un jeune garçon qui m'a acheté une de mes premières peintures et ça représentait un dragon. Pas parce que j'avais voulu figurer un dragon, mais parce que les taches de couleur s'étaient mises de façon à ce que ça représente un dragon. Et encore aujourd'hui, il me dit, chaque fois que je regarde ta peinture, je découvre d'autres choses. Et ça, c'est lié aussi, c'est le pouvoir de l'imagination, c'est de se dire, c'est pas une peinture figée, c'est quelque chose qui vous laisse, qui ouvre la porte à des mondes imaginaires. Ça, c'est vraiment magnifique.
Tu parles de ce jeune garçon, ça me fait penser à une question. Alors, c'est pas qui est ton public cible, mais qui achète de l'art parce qu'effectivement, est-ce que c'est des gens qui ont une habitude de ça, qui ont été sensibilisés ? Comment on en vient à mettre un certain budget dans une toile ?
Aujourd'hui, c'est vraiment... D'abord, je n'en vis pas. Je ne vends pas assez pour pouvoir en vivre. Mon premier client, c'était ce jeune garçon, il a quand même 25 ans, mais... qui est venu et qui a été captivé par cette peinture et qui a eu un véritable coup de cœur. Après, chose bizarre, j'ai plus jamais vendu qu'à des femmes. Donc je ne sais pas pourquoi.
Okay.
de tous âges, et c'était des véritables coups de cœur. Donc elles sont venues, elles ont réfléchi, elles ont regardé la peinture, elles ont dit oui, non, c'est vraiment celle-là, pas une autre, et c'est celle-là que je veux. Et donc voilà. Alors j'ai pas aujourd'hui un public donc de collectionneurs ou d'amateurs d'art, mais ce qui me réconforte dans cette voie-là, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à peindre et que je me suis dit, bon, il faut se représenter qu'à la fin des déconfinements, je me suis retrouvée avec 90 toiles dans mon salon. Je me suis dit, bon, maintenant, je fais quoi? Ou je les mets dans mon grenier, je jette la clé et personne ne les verra jamais. Ou j'essaye de me bouger pour essayer de les mettre à différents endroits. J'ai commencé à travailler mon networking pour développer mon réseau. Et j'ai surtout commencé à montrer mes toiles et à recevoir du feedback. En me préparant psychologiquement, notamment sur les réseaux sociaux, à ce qu'on me casse quelque part.
Oui.
Et bizarrement, tous les commentaires étaient très encourageants, étaient très constructifs et plutôt positifs. Il y a même eu des moments où les gens m'ont dit « Tiens, c'est amusant, ce tableau-là me fait penser aux impressionnistes, me fait penser à tel peintre, me fait penser à ceci. » Et je n'y avais pas pensé à moi-même avant. Donc,
oui,
par projet, c'est surprenant. Et donc, ça guide un peu. Et puis, donc, je me suis dit, bah, allons-y, on va se lancer, on verra bien. Et c'est vrai que j'ai en général des commentaires positifs. Et donc, ça me réconforte dans cette voie-là. En même temps, quand je vais proposer mes peintures pour exposer dans différents endroits, on ne m'a jamais dit, j'aime pas vos peintures, je n'ai pas envie de les voir. Souvent on me laisse carte blanche, j'essaye de mettre en valeur le mobilier, d'assortir les toiles à l'environnement pour que ça soit mutuel en fait. Les toiles mettent l'environnement en valeur et l'environnement met les toiles en valeur aussi. Donc c'est vraiment une relation win-win que j'aime bien avoir avec les exposants. Et c'est très constructif, c'est bon enfant, et c'est sympa. Quand je vends, ils sont contents. En plus, ils ont une commission la plupart du temps. Et quand je vends pas, c'est pas grave. Ils sont contents d'avoir changé leur décor. Donc voilà.
Et tu as différents formats.
Oui.
C'est quoi tes formats?
Je commence à 30 sur 30 dans un cadre. Et mes principaux et plus grands formats actuels, c'est du 80 sur 60.
D'accord.
Okay. Mais pourquoi cette dimension-là? C'est parce que tout simplement, c'est ce qui entre dans ma voiture.
C'est pragmatique.
Ce qui est quand même très pragmatique. Mais si je veux faire une exposition de 20 toiles, il faut que je puisse les mettre dans quelque chose. Et puis aussi, parce que c'est plus facile à mettre dans un intérieur.
Oui.
Si on fait des toiles monumentales, c'est super, mais tout le monde n'a pas un château pour pouvoir les présenter. Et alors, ce que je fais parfois, c'est des toiles que je peins par deux ou par trois. Parce que pour occuper un grand mur blanc, ça habille le mur et ça fait référence aux mêmes couleurs. Donc, elles vont ensemble.
Oui.
Et pour que des toiles aillent vraiment ensemble, souvent, il faut les peindre ensemble.
Ok. Est-ce que tu les peins parfois en pensant à un endroit où tu les imagines exposées?
C'est arrivé. Notamment, j'ai décoré un restaurant qui s'appelle La Ferme Rose. Je me suis dit, bon, bah, il va falloir mettre du rose.
C'est pas souvent.
Et c'est pas habituel. C'est pas nécessairement ce que j'avais le plus dans ma palette. Et donc, bon, j'avais quelques toiles avec du rose, mais pas suffisamment. Donc, j'en ai fait quelques-unes supplémentaires pour ça. Je suis allée dans une société qui avait un logo orange et des chaises oranges. Je me suis dit, bon, ben, il va falloir mettre de l'orange. Et donc, ça guide un petit peu. Et puis après...
Est-ce que tu as des commandes?
Ça arrive, parfois, oui. Ouais.
Les gens qui ont une envie que ce soit ton style, mais avec peut-être quelques critères de
c'est
base.
Ça. Et ça, c'est amusant parce qu'on entre un peu dans l'imaginaire des gens. Et puis, on fait ce qu'on pense. Et puis, ça plaît ou ça plaît pas. J'ai eu de la chance, ça plaisait. C'était amusant. Non, c'était quelqu'un qui est venu à une de mes expositions qui m'a dit « Écoute, c'est chouette, mais ton exposition, elle est tout dans les verts et jaunes et moi, en fait, j'aime mieux toutes les autres couleurs. » Alors, je dis « C'est pas de chance parce qu'il y en a d'autres dans d'autres couleurs.
Ailleurs.
Tu me l'aurais dit, ça aurait été plus simple. » Il me dit « Ah oui, mais là, je pars en vacances, je vais aller faire de la plongée en Égypte, j'adore ça. » Et c'est vrai que moi, ça me plairait vraiment d'avoir un tableau avec des poissons. Elle est partie en vacances et quand elle est revenue, il y avait deux tableaux qui l'attendaient avec des poissons. Elle a dit « Ah, c'est juste ce que j'ai vu en Égypte, ça me parle vraiment, j'adore. » Et voilà.
Ok.
Donc,
sur un thème comme ça, ça peut...
C'était un peu plus vague quand même, hein, mais bon.
Ouais, super. Est-ce que tu exposes parfois avec d'autres artistes ? Tu peins seul, mais est-ce que tu collectivises la démarche pour exposer ou...
C'est rare, mais je le fais dans les parcours d'artistes, en fait. Mm-hmm. Dans les parcours d'artistes, on se retrouve souvent à plusieurs, dans un lieu, etc. Jusqu'ici, je n'ai pas fait beaucoup d'expositions collectives avec d'autres artistes. Ça arrive. J'aime bien exposer en solo, en fait, mm-hmm. parce que ça donne aussi parfois un ensemble. J'ai fait une exposition dans un hôtel qui est à côté du Botanique, qui s'appelle le Hainaut Hotel, 25 toiles impressionnistes, qui étaient dans les harmonies de vert, de jaune et de bleu. Et c'était amusant parce que c'était assorti à la moquette de l'hôtel aussi. Donc, tout formait un bel ensemble, en fait. Mm-hmm. Et c'était l'occasion de présenter toute la collection beaucoup mieux que je ne pourrais le faire ailleurs, puisque là, j'avais une grande salle pour moi toute seule pour pouvoir faire parler les peintures entre elles. Donc, c'était chouette. Donc, voilà. C'est parfois l'occasion aussi de mettre tout un ensemble.
Mm-hmm. C'est plus facile alors que dans une expo avec d'autres... Ouais. Où tu as moins d'espace et où c'est...
Mais avec d'autres, mon expérience des parcours d'artistes, c'est que c'est souvent très différent et pas comparable.
Oui.
Donc, il en faut pour tous les goûts. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Mm-hmm. Et là, c'est l'enrichissement de rencontrer d'autres artistes, de discuter avec eux, des photographes, des peintres, des sculpteurs. Mm-hmm. Et chacun s'exprime comme il veut, en fait. C'est ça qui est lié. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement dans ce métier et dans ces relations-là, c'est que c'est rarement du jugement. C'est beaucoup plus de l'ouverture d'esprit, de la volonté d'essayer de comprendre et d'apprécier et de voir s'il y a des choses qui vous parlent et qui ne vous parlent pas. Mmh, mmh. C'est vraiment ça.
Chouette, chouette.
Donc ça, c'est assez sympa.
Il y a une communauté. Est-ce que tu t'es trouvé une famille de peintres
Oui, il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui vont à mes expos, qui sont parfois d'autres artistes aussi.
Oui.
C'est parfois réciproque. J'ai rencontré un jour un peintre qui m'a dit « J'aime bien vos verts. » Et moi, je lui ai répondu « Moi, j'adore vos bleus. » Je crois que c'est très surréaliste comme discussion, mais ça venait du cœur.
Ouais.
Et c'est vrai que lui, il était spécialiste des peintures de la mer. Et je suis vraiment fan de ce qu'il fait.
Ouais.
Et moi, j'ai plus des séries dans les verres. Et lui, il aimait bien. Donc, il est venu voir plusieurs de mes expositions. Donc, c'est assez amusant.
Ok, ok. Pour le moment, c'est en Belgique ou est-ce que tu voyages avec tes toiles ?
Pour le moment, c'est uniquement en Belgique, en région bruxelloise et Brabant-Wallon.
Oui.
Si je peux élargir, ça pourrait être chouette. Ouais, non, c'est clair que ce serait chouette de pouvoir élargir. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça peut s'élargir plus. J'ai pas encore pris le pli d'essayer les NFT et des ventes internationales, parce que bon, là, effectivement, si vraiment je vends une toile matérielle aux États-Unis et tout ça, c'est plus compliqué d'expliquer tout ça. Il faut voir les coûts et tout ça, donc j'ai pas encore essayé.
Okay.
Mais pourquoi pas, et je suis ouverte aux nouvelles technologies, j'apprends des choses et je découvre, et donc bon, bah, c'est pas vraiment mon métier ni ce que je fais actuellement, mais pourquoi pas.
Et il y a une question que j'aime bien poser notamment aux entrepreneurs, c'est quoi ton matériel de travail? Pour faire ton métier, t'as besoin de quoi?
Mais aujourd'hui, j'ai pas seulement besoin du matériel de toile. Donc, j'ai pas seulement besoin du matériel de peinture, mais j'ai aussi besoin d'un ordinateur, de pouvoir avoir du matériel de marketing, quelque part, qui est la carte de visite, avec des QR codes pour faciliter l'accès aux pages où je montre mes œuvres. Même chose, une page internet, une page Facebook, une page Instagram, une galerie virtuelle, c'est des éléments qui sont importants pour pouvoir montrer. C'est vrai que si vous arrivez et que vous dites « je suis artiste peintre », ça ne parle à personne, donc il faut montrer quelque chose. Le montrer de la façon la plus attractive possible, c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours une tablette avec soi, on n'a pas toujours un tableau sous le bras.
Donc, et en plus, ça dépend encore
voilà.
Que
et
ça...
Donc, le fait d'avoir un site, une page internet avec... une galerie et des tableaux qui défilent, ça permet de parler plus facilement et de montrer un peu la diversité des peintures que je fais, voir si ça plaît ou si ça plaît pas.
Et tu parlais de marketing, je me dis, il y a la question du prix, comment tu fixes tes prix ?
Wow, au niveau artistique, c'est très compliqué de fixer les prix. Au début, ça demande une intense réflexion et surtout des comparaisons, d'aller voir plusieurs artistes, de voir un petit peu quels sont les prix du marché. Ce qui est vrai en art, c'est que si vous vendez trop bas, ça dévalorise ce que vous faites.
Ce qui est vrai dans
si vous vendez trop haut, vous ne vendez pas. Donc, c'est compliqué. J'ai tâtonné assez bien au départ. Puis maintenant, je suis restée sur une ligne assez constante de prix.
Est-ce que c'est dépendant de la taille de la toile?
Oui.
Ou... Parce que je me dis, est-ce que les bleus sont plus chers que les verts ou vice
versa? Non, c'est une question de taille.
Oui, c'est ça.
Une question de taille de toile. Et puis, j'ai quand même constaté le fait que quand il y a un coup de cœur, le prix, on s'en fout.
Oui.
Du moment qu'on sait se le payer, c'est bon. Donc, aujourd'hui, j'ai des prix qui ne sont pas excessifs, j'ai des prix, mais il y a des gens qui vont dire que c'est trop cher pour moi. Quand vous allez voir une œuvre qui est unique, puisque par définition, c'est une peinture qui ne ressemble à aucune autre, à combien est-ce que vous chiffrez une toile? C'est vraiment très subjectif.
Je me dis, c'est vraiment la notion d'artistique. Tu fais pas de la peinture en bâtiment, tu comptes ton heure de travail.
C'est pas vraiment ça non plus.
C'est de la création.
Moi, j'ai tendance à avoir un tarif pour les mêmes tailles de toile.
Ouais. Ouais.
Parce que c'est difficile d'en mettre une plus que l'autre.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas des lieux où tu vends plus cher ou moins cher.
Et puis, il faut être cohérent par rapport aux gens qui t'ont déjà acheté des toiles.
Oui.
Dans le milieu de l'art professionnel, là, il y a des cotations. C'est parce que c'est des œuvres qui ont été prises en salle de vente, qui sont en galerie. Mais c'est un monde qui, pour le moment, me reste assez étranger parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir entrer dedans.
D'accord.
Et comme aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'argent à investir dans la location d'une galerie...
C'est ça, j'allais dire. Pour pouvoir être exposé, en fait, l'artiste paye au départ. Et du coup, d'avoir... était dans telle galerie fait qu'il va pouvoir mettre ses œuvres plus chères.
Oui, et puis participer à des foires qui sont à l'étranger, etc. Ça donne une reconnaissance internationale, mais ça se paye.
Oui.
Et donc, c'est vrai que je me renseigne assez bien. Je regarde beaucoup autour de moi. Je suis très, très nouvelle sur ce marché. Je n'ai pas de gens autour de moi qui sont dans le marché de l'art. Et donc, je découvre.
Oui.
Et je regarde, il y a des gens qui ont les moyens d'investir de l'argent là-dedans. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de risquer, entre guillemets, des milliers d'euros sans être sûre de vendre.
Oui, oui.
Donc, c'est une question de voir où on met les pieds aussi, d'être assez prudente pour savoir où on va aussi.
J'ai une question aussi au niveau juridique. Tes toiles sont protégées? Est-ce que... t'as un moyen de t'assurer que quelqu'un qui passe dans un cabinet médical prenne pas la photo pour faire paraître le monde?
Non, aujourd'hui les droits intellectuels et ça, à ce niveau-là, il n'y a pas... En principe, j'ai le droit d'auteur et tout.
Oui.
Bon, si vous voulez prendre une photo d'une toile, y a rien ni personne qui
peut
vous en
empêcher. Est-ce que toi, après, tu pourrais éventuellement reprocher à la personne, dire je l'ai amené à tel moment et la personne la sort, je sais pas moi, une semaine après?
Je dois dire, je serais plutôt ravie qu'on la communique, mais ce serait plutôt sympa qu'on puisse mentionner mon nom dessus.
Oui,
c'est plutôt dans cette optique-là.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bon, une toile peinte, c'est différent que d'une œuvre digitale. Parce qu'une œuvre digitale, c'est plus facile à reproduire. Une toile peinte, il y a quand même de la texture, il y a du relief,
oui.
Il y a de la matière.
Il faut le vouloir.
Donc, c'est différent. Maintenant, moi-même, je peux proposer des produits dérivés. Si ça amuse un client d'avoir un mug avec une de mes toiles, une housse de couette ou des coussins, ça peut se faire. Tout peut se faire. Mais bon, ce n'est pas le même objectif.
Et tu as déjà travaillé comme ça sur... voir ce que ça donnait sur du textile ou sur d'autres matières.
Oui, par curiosité, c'est rigolo.
Ouais, ouais, ouais.
Rien que d'essayer d'imaginer un drap de bain avec ta toile.
Un kimono. Ouais,
j'aimerais bien faire des robes, ça me plairait bien.
Ouais.
Faire des robes avec des toiles, ça me plairait bien. D'ailleurs, ma garde-robe commence à devenir assez colorée, je dois dire.
Je vois bien des robes de plage, des choses... Ouais.
Ça pourrait être sympa.
Des collaborations sympas.
Oui, ça peut être à l'avenir, hein, pourquoi pas.
Je réfléchis, donc oui, tu nous as expliqué avec quoi tu travaillais. Alors, une autre question que j'aime bien poser aussi, c'est Est-ce que depuis que tu as fait cette reconversion, il y a des conseils que tu as trouvés vraiment intéressants ou pas du tout, ou que tu aurais aimé recevoir?
J'avoue que je me lançais dans l'inconnu parce que je ne suis pas du tout d'un milieu artistique et j'ai pas d'artiste dans mon entourage proche. Et donc, c'était un peu l'inconnu.
Mmh.
Et bon, je me suis fait des amis, en fait. Et c'est la façon de découvrir un petit peu ce nouveau monde. Ça a ouvert des perspectives. Surtout, je me suis poussée un peu à faire pas mal de sorties networking pour élargir mon cercle.
Donc ça, c'est le bon plan pour toi.
Je pense que ça, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer pour n'importe quelle activité, c'est d'élargir son cercle, d'élargir aussi ses contacts sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Parce que ça donne, mine de rien, pas mal de visibilité, que ce soit sur Facebook, sur Insta ou sur LinkedIn. Ça permet de toucher plus de monde et quand même d'élargir son réseau.
T'es pas encore sur TikTok ?
Non, pas encore sur TikTok. sur Insta, j'ai vraiment du mal à entrer dedans. Mais Facebook et LinkedIn, ça roule bien.
Ouais.
Et alors, c'est amusant parce que quand on change d'activité, j'avais énormément de followers sur LinkedIn.
Mm-hmm.
Quand je me suis lancée, j'en avais, je pense, 18 000.
Mm-hmm.
Mais c'était du monde de l'entreprise. Ça n'avait rien à voir avec l'art. Et je me suis dit, mon Dieu, si je lance tout d'un coup, je change d'activité, ils ne vont pas comprendre.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai élargi le réseau et maintenant, je suis à 22 000. Et donc, il y en a certains qui ont lâché, il y en a qui ont suivi. Et puis, il faut essayer de comprendre un peu ce qu'on communique, quels sont les messages que les gens ont l'habitude de recevoir de chez vous et qui s'attendent à avoir. Il ne faut pas être trop brutal non plus, pas faire n'importe quoi.
Je me
quoi.
Souviens justement d'avoir essayé de conversation avec toi, je crois la première fois qu'on s'est rencontrés, au moins de mon point de vue. Sur LinkedIn, on a un réseau, souvent avec des profils qui ressemblent aux siens. Et puis quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très différent, je trouve ça rafraîchissant, en fait, d'avoir, mmh. si tu as 10 000 contacts dans la com, et dans ces contacts, quelqu'un que tu appréciais par ailleurs et qui fait des toiles, bah, c'est une nouvelle qui change un peu dans ton quotidien.
Ça surprend.
Oui, et ça peut amener de la curiosité. Alors, peut-être qu'il y en a vraiment qui vont être complètement fermés à l'idée, tu vas perdre les grognons. Et puis, il y a tous les gens pour qui c'est une nouvelle, en tout cas, qui au moins va pas s'oublier dans le fil d'actu, enfin, qui est plus marquante que...
Ça surprend, en fait, ouais. Ça a l'effet de surprise.
Ouais.
Mais il faut pas faire n'importe quoi non plus.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, je reste ouverte aux nouvelles technologies aussi. J'essaye d'apprendre, de comprendre certaines choses et à travers mon réseau, de communiquer ces nouvelles technologies aussi, d'expliquer ce que j'ai vu, ce que ça peut m'apporter. C'est assez amusant. Je ne suis pas sûre que j'en ferai mon métier, mais pourquoi pas.
Ouais.
Donc, c'est rester ouvert aux nouveautés et pas se fermer, en fait. Mmh. C'est surtout ça, quand on se lance dans une nouvelle activité, je pense que c'est très important de ne pas rester fermé dans quelque chose, mais de rester ouvert aux opportunités. Et c'est vrai que dans le bouche à oreille, c'est ce qui me fait grandir mon réseau et c'est ce qui me permet de grandir... mes expositions. Aujourd'hui, j'aurais pas cru pouvoir dire ça un jour. Ça fait 2 ans que j'ai commencé les expositions et je suis à 6 à 8 expositions par mois.
Mmh.
Alors que la plupart des peintres que j'ai croisés font 3 à 4 expositions par an.
Par an, oui.
Alors c'est vrai que c'est pas toujours des expositions dans des très grands lieux, mais d'un autre côté, c'est des expositions solo. Ça se passe dans les hôtels, dans les restaurants, dans les centres médicaux. Aussi dans des endroits qui sont pas du tout classiques, style des bijouteries, des centres sportifs, pourquoi pas. Je crois que je dois être une des seules personnes qui choisit un restaurant en fonction du nombre de murs blancs qui figurent, plutôt que de regarder la carte. Mais ça permet de découvrir des tas de lieux, des tas de gens, et ouais. c'est très enrichissant.
Et d'être là où il n'y a pas déjà plein d'autres, peut-être.
Voilà. Ou s'il y a plein d'autres, se mettre sur les listes en disant « Oui, mais même si c'est dans un an, moi je veux venir. »
Ok.
Et parfois, la ténacité, ça paye, ouais, et ouais, ça, ouais. ça marche. Donc, ça demande aussi beaucoup d'organisation. Je n'avais pas du tout anticipé la somme de logistique qui était derrière.
Oui, pour faire tourner...
Voilà.
Tais-toi les...
Il faut un calendrier, il faut rappeler les gens, il faut être derrière, il faut avoir ce qu'il faut pour les accrocher, pour les décrocher, il faut prendre les rendez-vous. Ça demande quand même...
En fait, tu vas passer une petite camionnette, quoi, un truc un peu plus...
Peut-être un jour. oui. Mais c'est tous des aspects que j'avais pas anticipé nécessairement, que j'ai appris sur le tas, en fait.
Oui, oui.
Mais il faut réaliser que ça prend du temps. Mm-hmm. Et ça prend du temps pas seulement dans une journée, mais ça prend du temps sur le long terme. Oui. C'est pas un one shot.
Oui, c'est ça, c'est sûr.
On peut pas se dire, j'ai fait 3 expositions, je me lance comme artiste. Il faut vraiment persévérer, il faut continuer.
Que les gens prennent l'habitude, voilà. c'est la régularité.
Aujourd'hui, c'est un hobby plus, mais je ne peux pas vraiment dire que c'est ma profession, c'est clair.
Ton activité.
Ouais, donc okay. Voilà.
Ok.
Et c'est ce qu'il faut peut-être se rendre compte quand on se lance dans quelque chose de purement artistique, c'est que ça ne va pas devenir alimentaire tout de suite. Quoi.
Mm-hmm. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, tu as une vision ou en tout cas des étapes que tu aimerais franchir?
Maintenant, très franchement, aujourd'hui, ça me fait du bien de peindre. Mm-hmm. Ça me fait du bien d'exposer, ça me fait du bien de sortir de chez moi et d'élargir mon réseau. Je trouve que c'est déjà un bon objectif. L'objectif purement financier, je ne l'ai pas mis.
Mm-hmm.
Donc...
Et comme tu disais, ce nombre d'expos, est-ce que c'est quelque chose qui te challenge aussi, de dire il faut qu'il y ait de la matière pour ces expositions?
Pour moi, mon objectif, c'est qu'il faut que j'ai un minimum de peinture chez moi.
Oui.
Et je continue à peindre, donc c'est un truc qui est sans fin. Mais...
Il faut désengorger en permanence.
Il faut faire tourner, il faut que ça circule, il faut que ça bouge.
Ok.
Okay. Et c'est un peu ça qui me fait me sentir bien. On dit au niveau feng shui qu'il faut désencombrer, mais oui. Moi c'est la même chose. Il faut que ça désencombre.
Tu les produis et puis tu les partages, quoi.
Voilà. Mmh. Et que ça soit bien présenté ailleurs. Pas dans mon salon, c'est pas, pas la meilleure salle d'exposition.
Ça fait trop de monde dans ton salon.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Qu'est-ce qu'on peut, pourquoi on peut croiser les doigts?
Oh, mais rencontrer un collectionneur qui soit fou de mes peintures, qui m'achète la totalité, ce serait merveilleux. Plus sérieusement, vraiment pouvoir rencontrer des gens qui sont des amateurs d'art et qui s'y intéressent sincèrement et qui puissent me guider dans ce monde de collectionneur que je trouve un peu inaccessible, j'avoue.
Ok, bon, le message est passé.
Voilà.
Si jamais il y en a qui écoutent. Et alors, je le dis systématiquement à la fin du podcast, mais d'autant plus dans ton cas, je mettrai en lien toutes les options pour te retrouver, tous les réseaux sociaux que tu citais, parce que là, vraiment, dans ton activité, on a besoin de voir.
Voilà.
La dernière, c'était tech, on avait besoin de goûter, de sentir, on a besoin de voir. Là, c'est de l'audio, mais je trouve que c'est une façon complémentaire de présenter ton travail, finalement, pour avoir envie d'aller voir les images, j'espère, juste après.
Bonne idée.
Merci, Catherine.
Merci beaucoup. Merci, Jessica.
Hops. Et j'ai trouvé Catherine particulièrement courageuse pour faire ses premiers pas dans cet univers inconnu. Elle a fait une belle prise de risque et elle a été récompensée le jour où elle a sorti ses 90 toiles de son salon pour les exposer aux yeux de tous. Je trouve qu'on sent qu'elle est vraiment aujourd'hui dans son espace de récréation et qu'elle s'éclate. Si vous voulez l'aider à poursuivre cette aventure, si vous avez envie de découvrir ces toiles et puis de les accrocher partout, dans votre bureau, dans votre commerce ou de les offrir, n'hésitez pas à la contacter. Je suis sûre que vos murs et votre vie ont besoin de toutes ces couleurs. Et puis si vous aussi, vous voulez élargir votre cercle, votre réseau, si vous voulez rencontrer des professionnels haut en couleur qui vivent des aventures fascinantes et qui pourraient vous inspirer, allez-y et puis venez, on en parlera peut-être dans votre propre épisode des podcasts de récréation.